l'invité du jour.
Un petit peu plus de 7h45, vous êtes bien sur RJFM. Évidemment, on va parler de l'Union départementale Force ouvrière ce matin avec nos invités du jour dans ces locaux. Françoise Lambert, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire de l'Union départementale Force ouvrière de l'Allier, évidemment, à vos côtés, Michel Bouvier, bonjour.
Bonjour.
Représentante du syndicat FO Finances Publiques, et puis également dans ces studios ce matin, Frédéric Joannard, bonjour.
Bonjour.
Représentant du syndicat SGP Police, donc rattaché à Force ouvrière. Force ouvrière pour son Union départementale qui tenait son assemblée générale la semaine dernière à Domérat, environ 120 militants présents, c'est ça ?
120 délégués, oui.
Bon, c'est l'occasion chaque année de faire un petit point de la situation finalement ?
Voilà, un petit point de la situation, confronter les problèmes et les réussites aussi hein, dans nos différents syndicats, et puis de faire le point sur ce qui est passé, mais aussi sur l'avenir.
Bon, 2016 avait notamment été une année marquée par la mobilisation contre la loi travail en intersyndicale. Qu'est-ce que vous en retirez de cette mobilisation aujourd'hui ? Est-ce que vous avez perdu cette bataille-là ? Comment vous jugez ?
Alors, on n'a pas gagné une bataille syndicale, mais on y a gagné fort dans la cohésion et la volonté de continuer de se battre.
Ouais. Continuer de se battre, ça sera le leitmotiv de 2017, j'imagine, bien sûr.
Voilà, c'est effectivement l'objectif. C'est ce qui est ressorti d'ailleurs de cette Assemblée Générale. Pas de démoralisation du tout de nos délégués, mais au contraire, une vraie volonté de continuer et de ne rien lâcher.
Bon, deuxième organisation syndicale du département, Force ouvrière. Comment vous êtes organisé un petit peu dans le département ?
Alors, nous sommes représentés aussi bien dans les services publics que dans le privé. Hein. On a un grand nombre d'entreprises dans lesquelles nous sommes implantés. Et dans la fonction publique, quasiment dans tous les secteurs, que ce soit fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière.
Bon, alors justement, fonction publique, sur cet AG, il en a beaucoup été question. Le constat, d'une manière générale, c'est quoi ? C'est casse des services publics, vous êtes inquiet ?
Oui, très inquiet. Surtout qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les choses s'accélèrent énormément. Et qu'aujourd'hui, on est vraiment, c'est ce qui a été dit par tous les délégués, à un épuisement des personnels, épuisement physique, mais épuisement moral aussi. On a vraiment des appels au secours dans tous les secteurs de salariés qui n'en peuvent plus, qui menacent de passer à l'acte, comme on dit.
Ouais, ça a été le cas notamment à l'hôpital, hein, où il y a un vrai ras-le-bol. Il y a eu des mobilisations ces dernières semaines.
Oui. Alors oui, on a eu la mobilisation du 7 mars. Alors au niveau départemental, FO avait choisi de répondre à l'appel national. Donc nous sommes partis avec deux bus qui étaient bien pleins pour dénoncer au départ, surtout dans la fonction publique hospitalière, mais dans l'ensemble de la fonction publique, on a ce même problème qui s'élargit et qui devient insupportable.
Alors c'est le cas notamment dans les finances publiques, et c'est là que je me tourne donc vers Michel Bouvier. Dans les finances publiques, 2016 a été une année difficile aussi avec les fermetures, notamment des trésoreries de proximité. C'est quelque chose que vous dénoncez également ?
Tout à fait. Nous assistons, nous personnels, à la destruction de notre réseau, une volonté de notre directeur général, au motif d'économie sans cesse, ces restructurations et réformes à tout va. Mmh. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, ouais, effectivement, dans le département de l'Allier, il ne reste plus que 11 trésoreries. Alors, pour que ça parle plus aux gens, je vais dire 11 perceptions, parce que les gens savent ce que c'est. Il y a 3 ans, il y en avait encore 17. On voit partir, avec notre entrée dans la grande région, tous nos services importants, tous nos pôles partent à minima sur Clermont, voire sur Lyon.
D'accord.
C'est une véritable destruction, avec des agents qui en ont plus que marre, avec des gens qui se retrouvent dans des situations, les gens en état de précarité, eh bien, n'ont plus du tout d'interlocuteurs locaux. Puisque là, on va vers les caisses sans numéraire, l'interdiction pour une trésorerie d'encaisser une facture qu'elle n'a pas émise, avec le télépaiement à outrance. Et je vais juste vous citer un exemple, puisqu'on est en ce moment en plein dedans, la presse en parle beaucoup, le prélèvement à la source,
ouais,
où tout va être géré par une seule plateforme nationale qui va se trouver en Haute-Vienne. Je ne vous fais pas de dessin quant à l'avenir des trésoreries et des services de recouvrement. Ouais. Il n'y en aura plus.
Sur le centre des finances public de Montluçon, c'est aussi des restrictions d'horaires, finalement, des horaires qui ont été revus à la baisse pour l'accueil du public.
Eh bien, par manque de personnel, ouais, les chefs de service ont choisi de fermer certains jours au public parce qu'on n'a plus du tout la possibilité d'accueillir les gens chaque jour. Donc là, actuellement, sur Montluçon, c'est 2 demi-journées de fermeture obligatoire. Et on s'oriente. Alors, ça devait être fait au 1er mars. C'est repoussé parce que, je pense, à cause des élections présidentielles.
Ouais.
Mais on s'oriente vers l'accueil uniquement sur rendez-vous. qui est une catastrophe. Ça va être géré par un programme informatique, avec une seule personne qui va piloter tout ça, avec des temps octroyés aux contribuables de 15 minutes environ maximum. C'est quelque chose, c'est une véritable catastrophe pour nous.
Ça sera mis en place, donc ça a été repoussé de quelques mois en
fait. De quelques mois, je pense. Je pense qu'ils vont peut-être attendre la rentrée. Ouais. Mais les groupes de travail n'ont pas encore eu lieu. Ils ont été purement et simplement repoussés. On n'a que peu d'infos. Mais en tout état de cause, l'Allier fait partie des départements qui vont appliquer ce système-là, tout simplement parce que, effectivement, on est un petit peu pris. On manque tellement de personnel dans les services que même les gens en sont arrivés à demander des choses qu'ils ne voulaient vraiment pas, mais parce qu'ils ne peuvent plus assumer du tout les tâches indispensables.
Ouais. Est-ce que ce constat, on le fait aussi dans la police? Je me tourne vers Frédéric Joannard, donc représentant du syndicat SGP FO Police. Il y a évidemment l'actualité, notamment dans le bassin Montluçonnet, qui est bien triste ces derniers temps. Ces renforts de police temporaires qui sont arrivés. Aujourd'hui, quel constat vous faites, vous, notamment sur les postes au commissariat de Montluçon? C'est un petit peu comme aux impôts ou des choses comme ça? Il manque du monde?
Alors, évidemment, nous faisons le même constat, hein, puisque si on prend un référentiel depuis 2007, depuis les 10 dernières années, on est en déflation permanente des effectifs. On était 129 au commissariat, nous sommes aujourd'hui 102. Et encore, je passe les trois collègues qui sont actuellement en congé pour retraite, donc en fait, on est techniquement 99 pour couvrir les mêmes missions. Mmh. Donc le constat est le même, et les renforts dont nous bénéficions aujourd'hui ne sont que temporaires, donc quid de la suite.
Ouais, c'est un constat évidemment qui vous alarme, vous aviez déjà alerté sur cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui tout ce qu'on voit est finalement quelque part, même si c'est très malheureux, mais le fruit de ces difficultés de ces dernières années?
Alors oui, ça nous alarme. D'ailleurs, on a alerté toutes nos instances et on va dire tous les organes déconcentrés, hein, que ce soit les comités techniques, les comités hygiène. La réponse est toujours la même en fait. Hein. Oui, on sait, ça viendra, bon, sauf que ça vient toujours pas, et au contraire, ça s'accélère, puisque depuis 2 ans, on a perdu quasiment 8 collègues, hein, 8 policiers qui s'occupent de ces missions-là. Alors, de là à parler d'un lien de cause à effet, ouais, je ne sais pas, on peut pas refaire l'histoire.
Bien sûr, c'est pour ça que je suis très... Il faut être précautionneux là-dessus.
Après, ce qui est certain, c'est que moins on est nombreux, moins on couvre le territoire, et moins on peut mener les enquêtes qui sont nécessaires à l'élucidation de problématiques, hein, notamment l'économie souterraine. Mais de manière plus générale, on a aussi un épuisement extraordinaire des fonctionnaires de police, puisque comme ils sont moins nombreux, on les sollicite de plus en plus. On a affaire à des burn-out qui commencent à être de plus en plus prégnants, pas sur Montluçon encore, je croise les doigts pour mes collègues. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on a une réforme horaire qui est en place, enfin, qui commence à se mettre en place dans toute la France, et qu'on n'arrivera pas à la mettre en place aujourd'hui, hein. On se bat régulièrement là encore, mais le manque de moyens induit une impossibilité de le traduire. Et c'est une attente forte des collègues, parce que ça permettrait d'avoir une vie équilibrée beaucoup plus réelle entre la vie professionnelle et le travail. En gros, aujourd'hui, ils ont un week-end sur 6, et ce cycle permettrait d'avoir un week-end sur 2. Alors voilà, ça nécessiterait de pas être en déflation comme on l'est aujourd'hui. Il nous faudrait, alors ça varie, hein, aujourd'hui, il faudrait peut-être 5-6 collègues. Ça dépend du référentiel, ça dépend de plein de choses. Mais et comme le temps passe et que les collègues partent en retraite régulièrement et qu'il y a un épuisement, et que je vous dis, il y a plein de collègues qui partent de manière plus ou moins prématurée, à 1 ou 2 ans, un peu plus de ce qu'ils avaient prévu, parce que la situation est intenable. Nous l'avons déjà dit, les burn-out en sont la preuve. Nous avons des commissariats dans toute la France qui sont en arrêt de travail de manière importante, 80-90%. Certains commissariats ont la chance de passer à ce cycle de réforme horaire. À Montluçon, pour le moment, comme dans tout le département, ce n'est pas possible. Nous, on a quelques pistes, on a offert quelques pistes, mais pour le moment... C'est une fin de non-recevoir. Ouais.
Vous n'avez pas eu là de nouvelles, d'annonces de postes qui seraient comblés sur Montluçon, compte tenu des derniers événements? Les effectifs qui sont là sont vraiment là de manière temporaire?
Oui, tout à fait. Hein. Ce sont des effectifs. Donc, il y a des CRS qui viennent de l'Est et du Nord de la France. Nous avons des renforts de Clermont-Ferrand également. Bon, évidemment, c'est du ponctuel. On va pas pouvoir tenir ainsi. D'ailleurs, ces effectifs vont faire défaut à quelque part à un moment ou l'autre. De toute façon, c'est le jeu des chaises musicales, même si les compagnies républicaines de sécurité sont dévoués à ce genre de mission, mais d'autres sites vont certainement faire appel à eux. Ouais. Et puis non, pour ce qui est de la rentrée, on espère fortement qu'on va avoir des arrivées. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Les postes ne sont pas encore ouverts, donc c'est en cours, hein, d'administration centrale. Mais pour qu'on respire, il nous faudrait 7 ou 8 gardiens de la paix. Or aujourd'hui, je suis sceptique. On nous a promis que les 4672 gardiens de la paix qui sont en formation aujourd'hui seraient tous dévolus au commissariat de sécurité publique. On nous a fait tellement de promesses qu'aujourd'hui, je doute de la véracité et surtout de l'opportunité d'affecter des gens à Montluçon.
Bon, c'est une année importante.
Sur le département.
Ouais. C'est une année importante, évidemment, avec les élections. Est-ce que Force Ouvrière va s'impliquer dans le débat avec les présidentielles, les législatives, Françoise Lambert?
Alors, nous avons présenté il y a 15 jours nos analyses de la situation. Et surtout, nous avons représenté nos revendications qui sont clairement établies, que chacun peut retrouver d'ailleurs sur le site de Force Ouvrière. En précisant bien que nous avons des revendications aujourd'hui, que nous aurons les mêmes demain, et que, fidèles à notre conception du syndicalisme, nous ne donnerons aucune consigne de vote, que ce soit pour les présidentielles ou législatives, ni au premier ni au deuxième tour.
Bon, voilà, les choses sont claires. Merci en tout cas à tous les trois d'être passés à notre micro ce matin, 7h56.
Merci.
L'invité du jour.